Allez, merci à vous d'être à l'écoute de Mona FM. Aujourd'hui, mon invité, Roman Dodwyk, humoriste, comédien, créateur de contenu, désormais danseur, hein, on peut le dire. Le CV commence à s'allonger. Salut Roman,
bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va et toi?
On est ravis de te recevoir. Je dis danseur parce que voilà, il y en a certains, ils se disent Roman Dodwyk. J'ai entendu ce nom quelque part récemment. Oui, dans Danse avec les stars, bien sûr. C'est une émission que tu rêvais de faire. Voilà,
ouais.
C'est hop dans la cage de dans la liste de la vie. Hop, on peut cocher.
Dans la to-do list, on peut checker ce truc-là. J'ai jamais cru que ça arrive, mais c'est arrivé.
Justement, 2 mois là, après cette aventure qui c'est très bien passé pour toi, les demi-finales.
Mais tout à fait.
Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Est-ce que ça t'a déjà apporté des choses dans ton quotidien, cette aventure?
Ça m'a apporté aujourd'hui des courbatures, ça m'a apporté... ça m'a apporté en vrai de la confiance en moi. Parce que c'est sûr que quand on n'a jamais dansé de sa vie et qu'on se retrouve à faire un tcha-tcha devant 3 millions de personnes, tu te dis, mais alors attends, faut être un petit peu fou quand même. Et puis quand ça arrive et que t'as eu un set, tu te dis, ah ouais, en vrai, ça va. Donc oui, ça demande une grosse force de travail, surtout physique, parce que moi, j'avais jamais fait de sport, j'avais jamais fait de danse. Donc j'avais un corps qui est pas du tout habitué. Enfin, la danse, c'est comme si tu devais réapprendre à marcher, quoi, parce qu'on te dit, tiens, le pied doit être mis à gauche en opposition avec ta jambe droite pendant que ton bras fait autre chose. Tu dois dissocier le haut de ton corps et le bas de ton corps. Personne ne fait ça. Même la façon de compter, elle est bizarre. 5, 6, 7. Pourquoi tu commences pas à 1 comme tout le monde? C'est trop bizarre. Et donc, du coup, tu dois tout réapprendre et ça demande des heures de pratique. On s'entraînait 7 heures par jour, tous les jours, pendant 3 mois.
C'est chouette de pouvoir représenter le monde de l'humour et surtout d'Internet dans un programme télé-culte comme Danse avec les stars ou pas?
Ouais, c'est chouette, surtout qu'on est tous à égalité dans cette émission. Bon, on s'est pas tous dansé pareil, mais par contre, on est tous mis au même niveau. Il y a personne qui est plus mis en valeur qu'un autre. Donc, au final, ouais, ça te donne l'opportunité de dire que t'existes et que oui, on peut venir d'Internet, on peut venir de l'humour et se retrouver dans un programme comme ça. Il y a toujours eu des humoristes et depuis Michou,
ouais.
Michou a ouvert la porte au...
Oui, avec Dalcy dans Danse avec les stars d'Internet. T'as regardé un petit peu justement?
Bien sûr, mais j'ai pas seulement regardé, j'étais là,
ouais.
J'étais là en même temps. Donc c'est-à-dire que nous, on finissait Danse avec les stars et puis après, ils enchaînaient avec Dalcy. Et c'était assez marrant d'ailleurs parce que ça passait de Danse avec les stars qui reste une émission avec des codes. Voilà, la télé, c'est très codifié. Camille Combal qui est dans la propreté, qui fait une présentation pour que tout le monde comprenne. Et Michou qui arrive derrière.
Ouais.
Salut tout le monde, chaque doigt de bien, on fait de la tectonique, j'en ai rien à foutre. Et je me dis, c'est quand même énorme d'avoir réussi à faire ça. J'ai tellement d'admiration et pour l'intelligence de se dire, tiens, on va faire un programme comme ça, puis on va aller au bout, quoi.
Ouais, on va parler de ce spectacle maintenant. Adorable.
Bien sûr.
J'insiste sur le ado parce qu'il est en majuscule hein, dans le nom de ce spectacle, évidemment.
C'est un jeu de mots.
Avec le petit jeu de mots, bien évidemment. Donc, de passage le 16 juin dans la région au Splendide de Lille. Hein, ne manquez pas. Cette date, alors.
Certainement pas.
Bah non, ce serait dommage.
Oui.
Bon, d'ailleurs, peu de gens le savent, mais en fait.
Je joue mon spectacle.
Non.
Peu de gens le savent. Vraiment, c'est pour ça que je fais de la radio.
Non. Mais je voulais parler de la scène parce que beaucoup t'ont découvert sur TikTok pendant le confinement, pendant le Covid, etc. Mais toi, en fait, la scène, c'est ton premier amour. Tu voulais même être comédien. T'as fait, je crois, le conservatoire d'art dramatique du Val-de-Marne.
Oui,
c'est bien ça.
Fait.
Et toi, ton objectif, à la base, c'est d'être ça, comédien, d'être sur scène.
Oui, et puis j'étais même plus destiné à faire Molière qu'à faire Danse avec les stars, quoi.
Ouais.
C'est le parcours est dingue, mais la vie est grande. Moi, c'est vrai que j'ai attaqué à 12 ans au conservatoire, j'y suis resté jusqu'à mes 18. Je suis passé par tous les cycles possibles. Là-bas, c'est une formation qui est énorme. Je le dis pour tous ceux qui ont envie de faire du théâtre. Moi, ce que je conseille, c'est le conservatoire parce que c'est une formation déjà qui est publique, donc gratuite, et surtout qui est très vaste, très enrichissante. On fait du contemporain, on fait du classique, on va y avoir du chant, de la danse, va y avoir de l'expression corporelle, va y avoir du masque, va y avoir du clown, va y avoir des interventions. On va faire à la fois des performances et en même temps du classique, on va jouer en anglais, on va faire du fado. Et puis ça t'apprend à te démerder parce que y a pas de budget, donc démerde-toi. S'il y a pas de budget, tu veux un costume, trouve le costume. Et donc du coup c'est là-bas que j'ai appris que le contact était quelque chose d'indispensable dans ce métier. Si t'es pote avec le mec qui vend des costumes, tiens, peut-être tu peux lui dire, tu me passes ton costume et puis moi je vais jouer Molière avec, je te le rends derrière. C'est des trucs tout bêtes, savoir se démerder avec des bouts de plastique. On était en art plastique dans ce conservatoire parce qu'à un moment, on a envie d'un décor, fallait qu'on le construise nous-mêmes, quoi. Et puis chacun avait ses petites, c'était comment est-ce que dans le groupe on arrive à se distribuer les tâches pour réussir à faire un spectacle qui au final est un spectacle de fin d'année d'école, mais il y avait une vraie passion et moi c'est là où j'ai appris que on pouvait tout faire soi-même, on pouvait se démerder, et puis il fallait s'entourer des gens intelligents pour pouvoir faire des bonnes choses. Donc moi, ça a été une vraie école là-dessus.
Ouais, c'est
qui,
la base.
Aujourd'hui, me sert dans tout ce que je fais, qui me permet d'ailleurs de me dire, tiens, oui, je suis humoriste, oui, mon premier métier, c'est la scène, mais je peux aussi essayer de faire des vidéos, je peux aussi essayer de danser, je peux aussi essayer de chanter, je peux aussi essayer de faire de la radio, de la télé. Il n'y a pas de limite, en fait. Tout est jouable tant que tu travailles et que tu as envie d'y arriver, quoi.
Les plus jeunes là, qui nous écoutent vont forcément reconnaître ta voix. On dit souvent que tu étais l'humoriste de la Gen Z. Qu'est-ce qui fait que ça marche autant auprès d'eux, tes vidéos, hein, tes sketchs? Est-ce que c'est le fait justement de parler de sujets qui leur parlent? La sexualité, les amours, même le harcèlement à l'école, des sujets beaucoup plus sérieux. Est-ce que c'est ça qui fait que ça fonctionne autant auprès d'eux? D'autres humoristes ne parlent pas forcément, en tout cas.
Je pense pas que c'est que seulement une question de sujet. Je pense qu'il y a effectivement une question de sujet. Après, c'est des sujets qui peuvent concerner tout le monde. Le harcèlement scolaire est pas né pendant la Gen Z. Il est malheureusement beaucoup plus vieux que ça. Ça fait juste très peu de temps qu'on met des mots dessus. Et c'est bien d'ailleurs qu'on mette des mots dessus parce que ça permet de le pointer du doigt pour pouvoir le combattre. Par contre, je sais pas si je leur parle plus parce que je parle de ces sujets. Je pense surtout que c'est parce que c'est tout bête, hein, mais j'ai pas de mépris envers eux. Et quand j'ai commencé à faire, par exemple, des micro-trottoirs où j'ai abordé ces sujets-là avec eux dans la rue, oui. C'était pas pour, alors, on a interviewé petit gamin de 15 ans pour lui demander. Non, pour moi, j'étais à son niveau, j'étais pareil que lui, puis en plus, physiquement, j'étais pas très loin de lui vu que j'ai toujours un peu plus jeune que ce que je suis. Et grâce à ça, ils m'ont accordé une confiance en me parlant qui est une confiance qui naît simplement du fait de pas voir de différence entre toi et lui. C'est pour ça que moi, j'ai pas l'impression d'être le représentant d'une génération, parce que déjà, j'ai envie de faire rire et le mec à 14 ans et sa grand-mère.
Ouais.
Je veux que les deux viennent dans ma salle de spectacle et que les deux puissent se marrer. D'ailleurs, dans le spectacle, l'objectif, c'est que tout le monde se marre.
Tout le monde se marre, ouais.
C'est un spectacle qui a été travaillé pour être intergénérationnel et pour plaire à toute la famille. C'est-à-dire être un spectacle familial, pas dans le sens, bon, allez... le mec de 15 ans, il a envie de venir voir Roman Dodui et que son père va l'accompagner. Ouais, mais je t'assure que son père, il va se taper des barres et peut-être même plus que lui.
Ouais.
C'est l'objectif en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et voilà, je pense que quand on essaye de. Quand on a envie de parler à tout le monde, en tout cas, ce qui est mon cas, le plus simple, ça reste d'avoir de la curiosité, de pas considérer que l'autre est inférieur à toi de quelque manière que ce soit, quoi. C'est pas très compliqué, je trouve.
Mais du coup, on parle de quoi dans ton spectacle, finalement, pour donner envie à tout le monde de venir, justement?
Eh ben, on va évidemment parler de cette génération que moi j'ai dû rencontrer et confronter en démarrant les réseaux, parce que je commence les réseaux sociaux, que je voulais pas du tout faire au passage, hein. C'était pas du tout, moi je voulais être humoriste et avant je voulais être Molière, donc je passe de Molière à humoriste à réseaux sociaux. Mon prof de théâtre s'est foutu en l'air quand il a vu ça. Il s'est dit, putain, tout ce talent gâché. Et forcément, donc dans ce spectacle, je vais raconter le moment où moi, je me retrouve sur les réseaux sociaux et j'apprends à les connaître. Je ne les connaissais pas. Donc, on va faire un décryptage de ces réseaux sociaux. On va aussi faire un décryptage de cette génération que j'ai rencontrée. Donc de leur culture, de leur passion, de leurs doutes aussi, et des choses qui les intéressent, de la sexualité au harcèlement scolaire, des choses qui les touchent. Mais évidemment, on va pas parler que de ça. On va parler aussi de choses qui me sont arrivées que j'ai envie de vous raconter. Le jour où Gabriel Attal m'a envoyé un texto.
C'est vrai?
Oui, complètement.
Incroyable. Qu'est-ce que cette histoire?
C'est une histoire de fou. Il y avait Gabriel Attal, il m'a envoyé un texto. Un jour, je suis dans mon canapé et j'ai dit bonjour, c'est Gabriel Attal, enchanté. J'ai vu ta vidéo sur le harcèlement scolaire. Merci pour ton engagement.
C'est quand il était premier ministre?
C'est quand il était ministre de l'éducation nationale.
Ah, ministre de l'éducation, ok.
Et je me dis, c'est quand même fou parce qu'il m'appelle par mon prénom, il me tutoie. Je me dis, c'est marrant, je vais répondre sur le même ton. Je dis merci Gabi pour ce petit message.
On se fait un verre ensemble.
Non, mais attends, tu rigoles, quand il a été élu premier ministre, je lui avais envoyé un petit message de bravo, félicitations pour ta nomination, et t'as eu une petite promo, super. Il m'a dit, bah, merci Roman, j'ai vu Danse avec les stars. Enfin, j'ai le numéro du premier ministre de la France, quoi. Donc c'est quand même horrible parce que tous les jours, je dois me retenir de pas faire une dinguerie, quoi. Et de pas envoyer un message à 2h du mat, tu dors. Tu c'est assez marrant. Mais bon. Donc voilà, dans ce spectacle, je vais vous raconter un petit peu ma vie, je vais vous raconter comment je me suis retrouvé sur les réseaux et surtout comment j'ai réussi à percer sur les réseaux sans faire exprès, presque.
Ouais, parce qu'on rappelle juste les chiffres des réseaux sociaux, 650 000 abonnés sur Instagram, 3 millions sur TikTok,
ouais,
c'est énorme,
ouais.
On prend la ville de Lille et de Lyon au moins en termes de TikTok.
Et il y a 800 000 abonnés, bientôt 900 000
c'est
sur
ça.
YouTube aussi.
C'est ce que j'allais dire, 900 000 sur YouTube, parce que tu fais...
millions...
C'est pour ça qu'on dit créateur de contenu, parce qu'en fait, on n'est plus que TikToker, que YouTuber, on est sur toutes les plateformes et on fait plein de belles choses. Et justement, toi qui as fait un petit peu du coup les deux, un petit peu les réseaux sociaux, un peu la scène, est-ce que t'as quand même une préférence désormais pour l'un ou pour l'autre, ou c'est vraiment très complémentaire finalement.
Non, c'est complémentaire. Ce que j'apprends sur l'un peut être redistribué sur l'autre. Après, sur, on va dire que sur scène, je trouve qu'on a une plus grande liberté, que c'est un des derniers endroits de, d'ailleurs d'expression pour essayer tous les moyens d'expression possibles, de la radio à la télé, en passant par le cinéma et le, la scène et les réseaux. La télé, la scène, pardon, ça reste l'endroit où je trouve on est le plus libre quand on fait du one man show, parce que c'est là où il y a le moins de censure, le moins de regard et le moins de, bah, y a personne qui va commenter. Non, tu rigoles ou tu rigoles pas, mais c'est voilà, il y a pas de bad buzz quand tu fais un sketch sur scène. Il y a pas de, donc tu restes quand même globalement très libre de ce que tu racontes et de comment tu le racontes. Donc, ouais. Ça reste peut-être mon endroit de prédilection.
Je voulais rebondir en plan sur tes bad buzz, parce que justement, tu as fait une vidéo récemment sur YouTube où tu parles de tes 10 plus gros bad buzz et on retrouve bah, justement des endroits comme la télévision, par exemple, et c'est vrai que ça se différencie justement de ce côté-là de la scène où c'est plus spontané. D'ailleurs, tu parles beaucoup avec ton public quand tu es sur scène ou pas ?
Oui, bien sûr, on échange pendant le spectacle, évidemment, il y a des moments d'interaction parce que c'est toujours le moment de se marrer et j'adore improviser avec le public. Ça reste quand même la chance qu'on a d'être sur scène. D'avoir ce pouvoir où tu peux parler à tout le monde, quoi, c'est génial. Ça me rappelle les micro-trottoirs, justement.
Oui, c'est ça.
Les micro-trottoirs, j'ai été à l'aise dedans parce que j'avais fait de l'impro avec le public avant en spectacle. Et donc après, je me resserre. Donc tu vois, les réseaux aident la scène, qui aident les réseaux, qui aident la scène.
C'est un cercle.
C'est un cercle vertueux, c'est très complémentaire et au niveau du public aussi. Et après, je prends toujours le temps, de toute façon, à la fin du spectacle pour rencontrer tout le monde. Tous ceux qui veulent me voir, me parler, prendre une photo, on peut à la fin du spectacle. Je suis devant le théâtre et pour moi, maintenant, c'est pas exceptionnel, c'est normal. Ouais. C'est à la fin du spectacle, je vais à la sortie du spectacle et puis on discute et puis on prend le temps, quoi.
T'as ton micro classique ou tu prends un micro comme celui dans tes micro-trottoirs avec ta grosse coupe de cheveux ?
Non, un micro pour les, avec les cheveux et réservé au micro-trottoir. Sur scène, j'ai un micro classique, faut pas se foutre de la gueule du monde.
Bon, est-ce que t'as d'autres beaux projets ? Parce que du coup, on en a parlé au début, on a parlé de Dals, qui est quand même une aventure incroyable, qui a duré quand même plusieurs mois. Là, j'ai vu que t'étais allé faire une bise au Père Fouras, là, pour Fort Boyard. C'est pour cet été. Deuxième fois que tu y vas,
ça, oui, deuxième fois. Déjà. Je suis mazo. Vraiment, je suis fou, parce que la première, je fais deux crises d'angoisse. On m'a dit, tu veux revenir ? Je dis, ouais, grave ! Complètement con.
Est-ce que du coup il y a d'autres projets ? Parce que je vois tu fais plein de choses. On te voit à la radio, à la télé, on te voit même faire quelques apparitions au cinéma ou dans des séries. Est-ce que voilà, j'ai même vu là tout récemment sur ton compte Instagram une vidéo un peu plus sérieuse où tu parles un peu de la séparation douloureuse entre deux personnes, où t'es dans un supermarché, t'appelles ton ex en fait et tu lui dis j'ai plus pas trouvé le lait de soja, etc. Et la vidéo, je l'ai beaucoup aimée parce que on rigole beaucoup avec toi, mais tu sais aussi aborder des sujets sérieux. C'est un terrain sur lequel tu pourrais arriver un jour parler de choses plus sérieuses comme ça.
Bien sûr, mais encore une fois, moi je me prive de rien. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être suivi, d'avoir une audience, et ça me permet de faire tout ce que je veux. Si j'ai envie de faire de la comédie, je fais de la comédie. Je pense que c'est là où je m'amuse le plus et c'est là où j'ai envie d'évoluer le plus. Mais en même temps, je me suis réveillé un matin avec j'avais envie de faire un court-métrage avec un gars qui est dans le déni total de sa rupture, et j'avais envie de faire une histoire triste qui chope les gens aux tripes et où on s'y attend pas. Et je crois que c'est les faire chercher. Et
c'est réussi.
Je crois que ça a marché. Parce que ça démarre comme un sketch, on se dit, c'est Roman, on va rigoler. Et puis à un moment, on se dit, on rigole pas, on pleure. Et moi, c'est ce que j'aime faire. Moi, ma passion dans la vie, avant toute chose, c'est de raconter des histoires. Que je le fasse sur scène, sur les réseaux, à travers un film, une série, à travers une vidéo courte, à travers de l'humour ou de la tragédie, quelle que soit la façon de le faire, moi mon kiff c'est de raconter des histoires. Donc je raconte les histoires que je veux et je les raconte comme je veux. Après, le public me suit ou me suit pas, c'est à lui de décider. Mais par contre, je crois que quels que soient les projets que je vais faire, ce sera ça le fondement de tout, quoi.
Et allez suivre Roman Dodwig pour ne rien manquer de ses prochaines aventures. Je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres. Il va encore nous surprendre.
Oh oui.
Il va encore faire des choses de dingue.
Qui sont dans les bacs.
Il nous dit pas tout.
Je
mais...
ne donne aucune exclue à Mona FM, rien du tout. Mais il va se passer des belles choses et il y a plein d'histoires qui arrivent.
Les exclus, c'est sur ses réseaux sociaux. Allez le suivre sur Instagram, TikTok, sur YouTube. Voilà, allez rigoler. Ça fait du bien en ce moment d'aller rire et aller voir surtout son spectacle adorable le 16 juin au Splendide de Lille. Petite précision pour ceux qui avaient des places pour Dunkerque. Voilà, on a appris du coup que c'était annulé il y a quelques heures, donc reporté sur l'île, hein, c'est bien ça.
C'est ça, pour des raisons indépendantes de ma volonté, on va devoir annuler cette date malheureusement, je suis bien désolé, donc le public de Dunkerque, si vous avez pris des billets pour Dunkerque, voilà. Vous les présentez à Lille et vous avez non seulement une place dans la salle, mais une place supplémentaire qu'on vous offre pour vous nous excuser du désagrément.
Voilà. Donc, voilà, c'est bien de le rappeler, et puis si vous n'avez pas encore vos places, bah allez-y, hein, les points de vente habituels, c'est voilà, 16 juin au Splendide Super Salle à Lille, voilà, allez y faire un petit tour et vous retrouvez bien sûr cette interview, voilà, en podcast sur monafm.fr. Merci beaucoup Romain d'avoir passé un petit moment avec nous.
C'était énorme.
Et puis bah très vite, peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, on verra bien ce que tu
nous
prépares.
Avec grand plaisir.
Salut.